VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 16h à Dakar, 17h à Abuja. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Bienvenue dans notre journal. Dans l'actualité africaine aujourd'hui, au Burundi, un glissement de terrain à Rutunga a fait au moins 10 disparus. Il a beaucoup plu dans cette zone située à une trentaine de kilomètres de Bujumbura, la capitale. Les pluies torrentielles et la boue ont tout emporté sur leur passage. Les équipes de la Croix-Rouge burundaise sont sur place. On écoute Anselme Katiyungurunza, le secrétaire général de la Croix-Rouge burundaise.
La rivière de Rutunga a complètement dévié de son lit et a pris sur tout son passage de grosses pierres. Et voilà, ces pierres ont bousculé toutes les maisons qui étaient sur le passage quand elles descendaient vers là. Nous avons 10 personnes disparues, parce que jusque-là, on n'a pas encore trouvé les corps. On a 3 écoles complètement détruites de 14 salles. Il y a une église également qui s'est complètement effondrée. Un centre de santé complètement détruit. Et la route qui mène de Rumonge vers Bujumbura est coupée sur une distance de 5 km.
Anselme Katiyungurunza de la Croix-Rouge burundaise. Il était joint par Nicolas Pinault. Au Nigérian, on a voté en masse et calmement ce week-end. Et les Nigérians attendent aujourd'hui le résultat d'une présidentielle très disputée. Si le déroulement a été globalement satisfaisant, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fait part de leur inquiétude concernant des menaces d'interférence politique délibérées. Des craintes sans fondement, selon l'INEC, la Commission électorale indépendante du Nigeria, qui a rétorqué très rapidement après ces accusations qu'il n'y a aucune preuve d'interférence politique. Des violences sont redoutées à l'annonce des résultats, comme lors de la présidentielle de 2011, où près d'un millier de personnes avaient été tuées. Des premiers incidents se sont produits dimanche à Port Harcourt, la capitale de l'État clé pétrolifère de Rivers, où des milliers de partisans de l'APC ont convergé vers des bureaux locaux de l'INEC qu'ils accusent d'avoir falsifié le scrutin au profit du parti présidentiel PDP. Lundi matin, ce sont 2000 militantes de l'APC réunies à nouveau devant l'INEC à Port Harcourt pour réclamer la tenue de nouvelles élections qui ont été dispersées à coups de gaz lacrymogène selon l'ONG sud-africaine Pan African Women Project. Selon des sondages conduits avant le scrutin, le président Goodluck Jonathan, 57 ans, et son principal rival, le général Muhammadu Buhari, 72 ans, étaient au coude à coude dans la course à la présidence. Du côté des électeurs, le sentiment général est que les choses se sont plutôt bien passées. Timothée Donangmai a recueilli la réaction de Lucie Djibril de l'Université libre de Lagos.
Il y a des succès parce que sinon il y aura des magouilles parce que c'est ce que les politiciens sont en train de faire avant. Mais maintenant là, c'est mieux. Comme les observateurs internationaux sont ici aussi, il y a la paix partout. Il y a des gens qui veulent causer des problèmes, mais avec la sécurité, tout est bien marché. C'est pas comme avant. Les gens ont peur. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté les villes même. Mais moi, je suis toujours à l'aise. Je n'ai pas quitté. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté.
Pensez-vous que ces élections vont permettre au Nigeria de sortir de la crise actuelle?
S'il y a des changements, si c'est Buhari qui aura la victoire, tout le monde sera content parce qu'on a besoin des changements, quoi. Parce qu'on en a assez marre. Il y a beaucoup qui ne marchent pas. Il n'y a pas d'électricité, les salaires ne sont pas bien payés, la pauvreté continue toujours. Et puis avec la crise, tout se trouve au nord. Jusque maintenant, les Boko Haram la font là.
C'était joint à Lagos, Lucie Djibril, qui est étudiante à l'Université libre de Lagos. Nouvelle mesure drastique en Guinée dans la lutte continue contre le virus Ebola. Les autorités de Conakry viennent en effet d'instaurer une urgence sanitaire renforcée de 45 jours dans 5 préfectures du sud-ouest et de l'ouest du pays en raison d'une recrudescence de cas dans ces zones. Le point sur cette situation avec le ministre guinéen de la Santé, le docteur Rémi Lama.
On est confronté à certaines difficultés relatives au respect de certaines mesures édictées par nos services. Je dis au départ, l'épidémie était concentrée au niveau de la région forestière. Mais grâce à la sensibilisation, à l'implication de la communauté, aujourd'hui en région forestière, nous ne recevons plus de cas il y a plus d'un mois. Ça veut dire que c'est une question, je me dis, peut-être, de déni de la maladie au niveau de la région côtière. Et c'est pourquoi M. le président de la FLIC, conscient de ce défi, a pris de nouvelles mesures afin de contraindre ces communautés à respecter ces mesures d'hygiène. Il est maintenant interdit de transfert de corps d'un endroit à un autre, j'allais dire, les contacts vont désormais rester sur place pendant les 21 jours. Et toute personne qui s'évertuerait à cacher un malade répondrait devant la loi, devant la justice. Donc ce sont des mesures renforcées afin que nous sortions rapidement de cette situation de crise sanitaire.
Le ministre guinéen de la Santé, le docteur Rémi Lama, joint à Conakry par Jacques Aristide. Le président américain Barack Obama se rendra en juillet au Kenya, la terre natale de son père, pour sa première visite dans ce pays depuis son arrivée à la Maison Blanche en 2009. Barack Obama, né aux États-Unis d'une mère américaine et d'un père kényan, participera au sommet mondial de l'entrepreneuriat et aura une série d'entretiens bilatéraux. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'exécutif américain. Il rencontrera en particulier son homologue kényan, Uhuru Kenyatta. C'est ce qu'a indiqué un responsable de la Maison Blanche sous couvert d'anonymat. Il s'agira du 4e voyage en Afrique subsaharienne de M. Obama depuis son arrivée à la Maison Blanche. Lors de sa grande tournée en Afrique subsaharienne en juillet 2013, Barack Obama s'était rendu en Tanzanie, au Sénégal et en Afrique du Sud, mais pas au Kenya.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et dans le reste du monde, les pourparlers sur le nucléaire iranien se poursuivent à Lausanne, en Suisse, à 24 heures de la date butoir pour la conclusion d'un accord cadre. Un diplomate occidental dit que trois questions majeures restent en suspens. Michel Joseph.
Selon ce diplomate, l'Iran et les puissances mondiales du P5+1 ne se sont pas toujours entendus sur la durée d'un éventuel accord, le rythme de la levée des sanctions économiques contre Téhéran et comment les imposer de nouveau en cas de violation des termes de l'accord par l'Iran. Il y a urgence, a-t-il également souligné, ajoutant qu'il ne reste plus qu'à dire oui ou non à des heures maintenant de la date butoir. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, s'est entretenu aujourd'hui avec ses homologues américains, britanniques, chinois, français, russes et allemands. L'objectif est d'arriver dans les prochaines 24 heures à un accord cadre qui garantirait la nature pacifique du programme nucléaire iranien en échange de la levée de sanctions draconiennes. Une version finale d'un tel accord est attendue vers la fin de juin 2015.
Au Yémen, au moins 45 personnes ont été tuées et 65 blessées dans un raid aérien qui a tué un camp de déplacés dans la province de Hadja, dans le nord-ouest du pays, selon un nouveau bilan de l'Organisation mondiale pour les migrations. Une coalition de 9 pays arabes conduite par l'Arabie saoudite a lancé jeudi dernier des raids aériens au Yémen pour empêcher, dit-elle, des rebelles chiites houthis d'instaurer un régime pro-iranien dans ce pays frontalier du royaume saoudien. L'État islamique a diffusé dimanche une nouvelle vidéo montrant la décapitation de 8 hommes décrits comme des musulmans chiites. Ils auraient été exécutés dans la province syrienne de Hama. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la vidéo semble authentique. 6 jours après le crash de l'A320 de Germanwings dans les Alpes françaises, les enquêteurs allemands ont révélé lundi que le jeune copilote, soupçonné d'avoir délibérément fait chuter l'avion, avait suivi un traitement pour des tendances suicidaires dans le passé, mais pas au moment du drame. Aux États-Unis, une fusillade a éclaté ce matin à l'entrée du quartier général de la NSA, l'agence de sécurité nationale située près de Washington. Lorsqu'une voiture a tenté de forcer une entrée, ont indiqué des médias locaux, au moins 2 personnes ont été hospitalisées selon les médias et 1 personne serait morte selon MyFox DC qui dépend de la chaîne Fox News. Interrogée par l'AFP, la NSA s'est refusée à tout commentaire. Elle devrait diffuser un communiqué un petit peu plus tard dans la journée. Enfin, en France, la droite dirigée par l'ex-président Nicolas Sarkozy a infligé une cuisante défaite aux socialistes du président François Hollande ce week-end. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans 50 minutes pour notre prochain journal. Bon après-midi à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info.